qui s'irritent. Est-ce qu'il y a déjà des moments où c'est purement formel? Et est-ce qu'il y a d'autres moments où il est sincèrement, se sent coupable et il a vraiment besoin d'expier quelque sorte pour faire notre tir? Ou est-ce que parfois ça, il fait ça parce que tous les ans il est prévu qu'il faut le faire? Et ça peut avoir un sens différent selon les moments.
Je pense qu'il est, il est sincèrement très angoissé. Et qu'il y a toujours finalement des conflits, il y a toujours quelque chose à traiter, il y a une part de négatif au sein du groupe, et on est vraiment à l'opposé en fait d'un système de confession catholique ou de pénitence catholique qui est en fait centré sur l'individu. Là, il faut prendre les choses à l'envers en fait, c'est qu'on a, il faut prendre l'idée qu'on a une sorte de système qui est le village. S'il est bien coordonné avec le maïs, c'est celui qui fait vivre, il fait pousser des choses, on mange, les enfants sont en santé, etc. Mais s'il y a des choses qui déraillent, on se tue mutuellement, on se tape dessus, et ça arrive toujours. Et donc ces deux, c'est un peu comme le, vous savez, le palais de Vienne avec le bon et le mauvais gouvernement. En fait, on a toujours le négatif de présent. Et donc, en fait, ces rites sont des gestions du négatif par quelqu'un qui est pioché au sein du groupe, qui est responsable, mais dans le sens où vraiment il vient répondre pour les autres, en fait. Il vient porter. Il y a vraiment ce point. En plus, il a, comme on le voit ici, un bandeau frontal. Il y a vraiment cette idée, voilà, qu'il porte sa charge et que l'année suivante, il va la transmettre à quelqu'un d'autre et il sera bien content. Donc voilà, c'est pas... déjà, c'est pas joué. Je pense qu'il y a vraiment une forme d'inquiétude réelle, parce que c'est quand même la base d'interprétation de toute situation d'infortune ultérieure. C'est-à-dire que si les rites n'ont pas... S'il commence à y avoir trop de morts, des accidents de voiture, des empoisonnements, etc., on va dire que c'est parce que le maire n'a pas bien fait son rite au début de l'année. Ou que l'équipe passée a transmis des choses qui n'étaient... Bon, donc voilà. Donc on est quand même potentiellement accusé de ne pas avoir bien fait les choses. Alors, la religion catholique, elle est présente dans un passage à l'église, en fait, qui consiste à prier et à faire des demandes aux saints. Donc, alors, et dans certaines églises, il y a même des sacrifices qui sont faits aux entités catholiques. Alors, bon, c'est un dossier très, très intéressant et très complexe, la question de la conversion ou de l'évangélisation au Mexique, puisque depuis le XVIe siècle, en fait, il y a une sorte de mouvement de balancier avec... En gros, l'impression que l'Église essaye d'imposer à un moment donné un changement dans les pratiques, puis après voit que rien ne change, donc se retire, et puis revient. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué à comprendre. C'est qu'en fait, par exemple, chez les Mirés, 90% de la population est catholique, et ils se sentent vraiment catholiques. C'est vraiment une adhésion. Alors, c'est une adhésion, en fait, qui est plus une adhésion à des rites qu'une adhésion à un dogme.
C'est un dieu de plus.
C'est ça. C'est un dieu de plus qui, ce qui est décrit dans les parcours rituels, c'est qu'on dit, après avoir fait donc le sacrifice au sommet de la montagne, dans l'église, ça vient compléter. Donc c'est effectivement une palette supplémentaire d'aide qui peut être apportée. Donc en fait, depuis plusieurs siècles, on a une forme de... de mouvement d'englobement réciproque, puisque en fait les religions mésoaméricaines, et c'est intéressant aussi je pense dans l'histoire de l'humanité, c'est que c'est des sociétés dans lesquelles les gens, alors, ils se font la guerre, ça c'est sûr, c'était même en Mésoamérique on se faisait la guerre violemment, mais on se fait jamais la guerre pour des questions de religion. Donc on se fait la guerre, et puis quand on a conquis le voisin, on rapporte le dieu du voisin pour faire un panthéon qui est encore plus développé. Donc, ça c'est quand même intéressant. Donc finalement, on peut dire que l'Église catholique est rentrée dans un système qui était déjà très plastique et très accueillant. Alors évidemment, c'était aussi la religion de la conquête, mais disons qu'il y a une forme d'englobement. Mais de l'autre côté, désormais, ce qui peut se passer, c'est qu'au sommet de la montagne, c'est la nouvelle pastorale, c'est le pape qui travaille là-dessus, la pastorale indienne, il y a l'idée qu'en fait, vu qu'on ne peut pas changer, il faut en quelque sorte recanaliser. Donc ce qu'on va faire, mais ça se faisait déjà au XVIe siècle, puisqu'on n'arrive pas à faire que les Indiens ne sacrifient plus des volailles, ben on va mettre une
croix au sommet de la montagne, on va dire, c'est une religiosité qui n'est pas encore bien orientée, mais ils vont vers Dieu. En fait. Donc, chacun essaye d'englober l'autre, en fait.
Alors moi, c'est vrai que par rapport à ça, justement, j'avais une question similaire à la vôtre. Et je m'interrogeais, après, je ne connais pas du tout les milliers, hein, mais je m'interrogeais justement sur cette présence, pas forcément de l'Église, mais des saints, parce que quand tu parles de régime de coactivité, à un moment dans ton ouvrage, tu dis que quand même, il y a des noms de saints qui viennent, qui sont superposés sur des entités abstraites, les anges, je ne sais pas, tu parles de Saint José, d'ailleurs,
oui, oui.
Et je me demandais dans quelle mesure ces saints ne sont pas aussi convoqués comme des agents,
oui.
Avec une action qui leur est propre. Par exemple, Saint Miguel avec son épée qui prendrait les nuages. Ouais. Et du coup, combien, et d'autant plus aujourd'hui avec la pastorale indienne, parce que justement la pastorale indienne, c'est l'Église conférencière, c'est-à-dire qu'elle va s'approprier les traditions indiennes, mais en même temps en les épurant. Hein,
mm-hmm. Oui.
Tout ce qui n'est pas trop catholique, on le met quand même un peu de côté, donc on reprend les traditions, mais on va enlever le côté trop. Je ne sais pas si le sacrifice, par exemple, peut être, du travail, peut être autant intégré que cela par rapport à la mienne, parce que c'est quand même pas très catholique.
Oui, oui.
Ils sont assez ouverts,
puis surtout alors, là, ce sont des salésiens, donc des congrégations qui ont...
Et du coup, ça contribue aussi à influer sur la conception relative à ces agents. Est-ce que tu as perçu cette...
En fait, je vais être très franc, parce que c'est c'est des discussions que j'ai eues en particulier avec Galinier, ou même De Hooves. Et c'est vrai que le reproche a été fait de plus mettre en avant des entités autochtones et de moins suivre ce qui se fait dans la sphère des saints, etc. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Dans le rite de naissance, j'explique il y a quand même des figures humaines de saints qui sont perçues comme participant à la formation de l'enfant, et que ce n'est pas pour rien. Mais effectivement, là, il y a quelque chose que je n'ai pas assez pris en compte dans l'enquête.
Et avec l'interférence de la pastorale, qui, je pense, je ne sais pas si elle est présente, mais en tout cas...
Oui, c'est en train.
Et du coup, il y a eu des changements rapides, vraiment, parce qu'ils se sont appropriés la langue vernaculaire, il y a des locaux, des natifs qui, eux aussi, sont devenus des militants, en quelque sorte.
Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 2005 et 2009, déjà, il y a eu au sommet de la montagne donc, une petite croix qui a été ajoutée. Alors, à mon avis, elle doit être ajoutée tous les 30 ans. Je pense qu'il y a vraiment... Parce que ça, c'est des choses qu'on faisait déjà, en fait, au XVIe siècle. Et surtout, ce qui a été très nouveau à partir de 2011, c'est que j'ai vu les jeunes au sommet de la montagne beaucoup plus, avec des iPads, en train de filmer ce qui est en train de se faire, en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant aussi à analyser.
Tout d'abord, c'était absolument passionnant. Et puis, j'ai deux questions. Avant les questions, j'ai l'impression que ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette interpénétration entre l'animisme et puis le christianisme, le catholicisme, on retrouve ça dans le cas de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Le bouddhisme Theravada, que je connais un petit peu, il interprète pénétration avec l'animisme qui est assez hallucinant. Et juste un exemple, dans l'hindouisme, en Inde comme à l'île Maurice, depuis une cinquantaine d'années, il y a une certaine tendance à dire, bon, les sacrifices des animaux, particulièrement de la chair, c'est trop sanglant, c'est pas bien. Par contre, les fleurs, oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui existe dans le jainisme dès l'origine. Non seulement on ne fait pas de sacrifices animaux, dans le jainisme comme dans le bouddhisme, parce que ça serait enfreint le principe de non-violence, l'ahimsa. Mais on n'offre même pas de fleurs, on offre, parce que c'est faire souffrir, on offre que des plantes sèches comme du riz. Et alors, mes deux questions sont les suivantes. C'est assez vrai. C'est d'une part, est-ce que les entités dont vous avez parlé, ce qui fait vivre, est-ce qu'elles sont considérées comme plus puissantes que le groupe ou que les individus? Et puis la deuxième question, qu'est-ce que c'est la deuxième question?
Je réponds à celle-là déjà.
Oui, c'était justement à propos de votre terrain. Est-ce que on pourrait, est-ce qu'on pourrait essayer de savoir si en terrain bouddhiste, on arrive à voir la disparition justement de toute purification par le son?
Alors, bon, je ne vais pas me lancer sur un comparatif sur des zones que je ne connais pas, mais en tout cas, ce que vous pointez intéressant, c'est en fait l'articulation entre des religions. Alors, quand on dit monothéisme, ce qu'on veut dire, indépendamment évidemment d'une affirmation d'unicité du Dieu, c'est quand même aussi des systèmes dans lesquels il y a des corps de théologiens qui vont développer un savoir, des dogmes, une explication cosmologique. Donc, un système finalement d'interprétation du monde assez, assez efficace. Et en même temps, dans la religion, il y a aussi toujours aussi la dimension pragmatique, efficace, du rite dans sa dimension concrète. Et en fait, on voit bien que dans des aires culturelles avec des religions, c'est vrai que finalement le catholicisme, enfin toutes les religions monothéistes sont extrêmement standardisées en tant que texte. Mais après, les pratiques locales, elles sont très variées. Parce que les gens, ils n'ont pas les mêmes... Et c'est là où, le rapport à la nature est important, parce que selon l'environnement naturel dans lequel on se trouve, eh bien, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas le même rapport à la montagne ou à la mer. Et donc, c'est aussi cette pluralité des rapports au vivant qui sont en jeu, en fait. Et concernant la question du sang, c'est vrai que c'est une question intéressante. On voit bien que là, par exemple, il y a des églises évangéliques qui s'installent dans la région, et qui disent, il ne faut pas faire de sacrifice, en fait. Alors c'est vrai que dans le village d'à côté, on ne fait pas de sacrifice, on ne boit pas, etc. Donc, pour moi, en tant qu'ethnologue, pour interpréter les changements culturels, c'est parfait, mais sinon, il y a moins d'éléments à observer traditionnels, en fait.
Et ça passe, il y a des villages qui passent.
Ah oui, oui. Alors ça, c'est très intéressant, c'est qu'en quelques dizaines d'années, ça, c'était vraiment une stratégie géopolitique de l'Amérique du Nord, hein, pendant la guerre froide, d'envoyer en Amérique latine des missionnaires protestants pour transformer en fait l'éthos des gens. Donc on voit bien que, par exemple, dans le village où je suis, on m'a raconté, ils arrivaient avec des billes en disant aux enfants, il faut que tu apprennes à compter tes billes et pas à les prêter. Donc tout ce qui pouvait créer la propriété privée, l'idée de l'individualisme, et évidemment ça rentre en conflit frontal avec le système des charges. Et c'est vrai que je me demande comment ça va tenir encore longtemps, parce que donner dans le monde actuel 10 ans de sa vie sans être salarié, quand on était paysan salarié et qu'on avait tous le même niveau de salaire, finalement, ça tenait. Là, il y a des situations qui sont à bracadabrande, parce qu'il y a des gens qui partent à l'étranger pour travailler pendant 2 ans, pour avoir assez d'argent pour pouvoir faire un service bénévole pendant 1 an.
Et là, c'est des charges civiles et religieuses.
Oui. Oui, il y a 2 échelles, charges civiles et religieuses. Et donc c'est un système qui devient assez problématique, parce que ça implique des dépenses aussi. Plus on va haut dans la hiérarchie, plus on doit faire des dépenses de prestige, comme on dit. Donc,
Merci beaucoup pour ton intervention,
c'était
vraiment passionnant.
Merci.
Et ça m'a évoqué une école où j'avais fait un premier
esquisse de cette école. Ah oui, je ne savais pas.
Et je me demandais justement, quand tu dis que avoir des charges élevées, ça implique de la souffrance, ça implique des dépenses, est-ce qu'il y a des manifestations de détresse et de tristesse quand on prend ces charges, quand quelqu'un les attribue? Et tu disais qu'on était pioché pour accéder à ces charges.
Oui, oui. C'est un honneur et une obligation d'être désigné. Je dis piocher en fait parce qu'il y a l'assemblée qui désigner en fait les membres, les 10 premiers, enfin les membres supérieurs, donc 10 personnes à peu près, et chacun, donc le responsable par exemple du bureau de l'éducation, va choisir après 6 assistants. Donc c'est lui-même qui s'en occupe en fait. Donc il y a une sorte de délégation. Mais alors, lors des assemblées, c'est intéressant parce que il y a tout un jeu, c'est le principe. C'est intéressant à analyser en termes de rationalité des groupes, parce que par exemple, il y a un tel, on sait qu'il est nul, Mais en même temps, il n'a pas eu de charge depuis 5 ans. Donc il y a quelqu'un qui va prendre la parole en disant « Mais lui, il n'a pas eu de charge depuis 5 ans, il faut lui donner une charge. » Donc on va lui donner une charge. Après, s'il est vraiment trop nul, on lui trouvera une charge, mais qui est... parce qu'après, il y a des petites églises, on trouve toujours des façons de... Donc là, il y a un peu le... Voilà, il y a des discussions. Si on est nommé que... Bon, concrètement, pour les jeunes générations, c'est un manque à gagner terrible. Donc quand on peut, comment dire... ne pas le faire tout de suite et attendre, on le fait. Alors en général, on prend la parole ou on demande à quelqu'un de sa famille en disant qu'on est en train d'économiser, que l'an prochain voudra bien le faire. Donc voilà, si on peut gagner un peu de temps, on le fait. Mais bon, évidemment, on ne peut jamais dire qu'on n'est pas d'accord, parce que si on n'est pas d'accord ou si on manifeste de la mauvaise volonté, on se fait exclure du village. Ça, c'est vraiment clair. Hein. Donc ce qui est en train de se passer, c'est un système un peu bizarre où il y a parfois des gens qui gagnent beaucoup d'argent à la ville et qui vont payer un substitut, en fait. Donc ça, c'est la fin du système, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie quelqu'un à sa place pour bosser, bon, voilà. Donc, voilà, ça se passe comme ça, en général, avec des principes. C'est à la fois le meilleur. Puis, évidemment, moi, j'ai bien vu, depuis que j'arrive, je repère le premier syndicat. Donc, c'est le lieutenant de police, avant le juge, donc le lieutenant de police. Je me dis, voilà, dans 5-10 ans, lui, il va être l'alcalde ou le président... Alors je lui demande, je dis alors, eh oui, il me dit non, mais en fait il ne faut pas demander. Donc il y a un jeu, il ne faut pas trop montrer qu'on a envie d'avoir les hautes charges. Parce que malgré tout, c'est aussi, on est fier d'être le maire. Donc c'est compliqué. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'oppose complètement à notre façon. On pense depuis la Grèce antique, la politique comme, et ça Deleuze, enfin Vernon le montrait bien, c'est l'opposition entre des partis qui ont des programmes de transformation du monde différents, et chacun va dire bah, « moi j'ai un meilleur programme que toi ». Et on est toujours là-dedans. Dans le monde mésoaméricain, c'est pas du tout l'idée. C'est, en gros, il y a une charge, le truc qui fonctionne, il faut que quelqu'un prenne un peu le poids sur ses épaules, et il aura aussi un petit peu des bénéfices, parce qu'il va être regardé comme le chef. Mais il faut pas trop qu'il montre qu'il prend plaisir à être le chef. Donc, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un plaisir. Donc, hein. Oui, ça, je savais pas. C'est vrai que les Witch Halls, c'est à la fois très proche, mais c'est un monde assez différent. Mais...
Sinon, dans le monde occidental très très proche, ça m'évoque un petit peu parfois les fonctionnements de départements dans les universités.
Oui, tout à fait. Mais complètement, oui. Mais c'est ce que disait mon directeur de thèse d'Escola. Il me disait... il me disait... Voilà, Descola me disait en lisant la thèse, il me dit mais en fait, je me suis bien revu en directeur de laboratoire parce que voilà, on est la caisse de résonance de beaucoup de problèmes avec parfois peu de reconnaissance, les gens se plaignent.
Il y a pas de rituels, enfin, il y a peu de rituels finalement.
Mais il faut les inventer.
Il faudrait inventer des rituels d'introduction pour le responsable du diplôme.
Oui. Non, parce qu'un des mérites de ça, c'est de dire, je te laisse une situation, mais moi, je ne suis plus responsable à partir de là, en fait.
Créer une homologie, en fait.
Hein. Il pourrait y avoir dans les universités, on pourrait ajouter des bannes.
Ah oui, ça
serait très bien. Ah, la question, c'est obligatoirement les bâtonnets.
Est-ce qu'on a besoin de ça pour suivre à l'université?
Oui, c'est ça.
Pour se purifier.
Je crois qu'il y a une question, là. C'est des traditions orales, en fait. C'est vraiment typiquement ce qu'on étudie.
Du coup, il y a un vocabulaire associé à la scène.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça se transmet. Il y a même, finalement, les paroles rituelles qui sont quand même des énoncés. Il y a en fait, dans une prière, il y a des énoncés un peu stéréotypés qu'on apprend assez rapidement. C'est « je l'épaule, je dépose devant tes yeux », que l'on soit heureux, que l'on soit en bonne santé. Et puis après, il y a des petites variations. Alors, comme on récite à très, très haute vitesse, il faut pouvoir improviser à haute vitesse, donc seuls vraiment ceux qui dominent l'art oratoire peuvent vraiment improviser bien, en fait. Enfin, c'est comme en France, en fait. Mais c'est une tradition orale qui se transmet de génération en génération, par imprégnation, par observation. Enfin, c'est des faits de culture qui...
Et elle est retranscrite sur leur calendrier, par exemple, parce que... Il y a pas de... C'est oral. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, par exemple, il y a des dates prévues pour ces cérémonies? Est-ce qu'il y a...
Bah alors maintenant, c'est des cérémonies qui se sont calées sur les calendriers civils. De toute façon, il y avait le calendrier solaire qui annuel, qui de toute façon organisait un certain nombre de rites. Et après, il y avait des usages de calendriers rituels un peu plus compliqués. Donc, il y avait aussi des traces écrites. Et on a, par exemple, des archives du XVIIIe siècle, d'une enquête épiscopale qui décrit en fait plus ou moins ce que je vous ai montré et ça n'a pas beaucoup bougé. Alors évidemment, faut toujours un peu être mesuré, mais...
Sa question est intéressante parce que c'est vrai que le travail soulève aussi toute la question de la transmission et on se demande dans quelle mesure tout ce que tu décris, tout ce dispositif rituel n'est pas aussi un cadre mais je dirais stabilisateur, alors, sans parler de fonction, avec un rôle d'intégration, de stabilisation,
c'est certain.
De résistance.
Bien sûr, c'est certain.
Le sentiment que ça donne.
C'est certain qu'il y a une sorte de... Il y a vraiment une répétition. Par exemple, moi, les premières fois, les premiers repas, je ne vous ai pas montré, mais les libations, en fait, à chaque fois qu'on s'est versé un verre, il y a 10 minutes de parole rituelle, plus 10 minutes. Alors souvent, on grelotte, on n'a qu'une envie, c'est de manger. Il faut attendre. Okay. Et donc on voit bien qu'il y a cet effet quand même d'apprentissage. Et puis parfois il y a des cycles rituels, par exemple quand c'est l'équipe municipale, il peut y avoir une dizaine de repas en 3 jours, et à chaque fois il y a 20 minutes de discours rituel au début, 20 minutes à la fin. Donc on baigne dedans, en fait. Hein.
Est-ce que dans la communauté que vous avez vraiment observée, est-ce qu'il y a des cas de membres de cette communauté qui sont partis et n'ont plus qu'un pied dans la communauté suite à des disputes vraiment, peut-être même intrafamiliales?
Ben, y a un cas qui renvoie à la question posée précédemment. À un moment, il y a eu des familles qui se sont converties au protestantisme et qui ont dit bah non, nous, de toute façon, on ne boit plus et on ne va plus faire le service. Et à ce moment-là, c'était en 91-92, c'était une crise évidemment. Donc l'assemblée a décidé d'exclure ces familles du village. Et à ce moment-là, il y a eu une plainte qui a été déposée auprès de la Cour des droits de l'homme, en fait. Parce que ça s'opposait au principe de la liberté religieuse. Donc là, c'était intéressant parce que c'était vraiment un cas d'un conflit juridique entre deux systèmes de normes, en fait.
Un conflit culturel, parce que la Cour des droits de l'homme, c'est pas tout à fait anodin et vraiment universel. Ça émane d'une culture particulière.
Oui, oui, mais je pense que dans la Constitution mexicaine, il y a quand même eu cet argument qui a été mis en avant de la liberté religieuse, en fait.
Moi, j'aurais une dernière question et qui va faire la transition peut-être avec ce qui va suivre, enfin j'espère. C'est la question de la nourriture.
Oui.
Et de ton rapport à toi concrètement sur le terrain, parce que j'imagine que tu as dû faire de l'observation participante, donc
oui.
Manger avec
oui.
Les autres commensaux.
Oui.
Comment tu as géré, parce que c'est parfois, ça a l'air de rien, mais ça peut être très compliqué.
Bien sûr, ouais.
C'est pas forcément pour nous très goûteux, très digeste. Mmh. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est négocié avec les gens?
C'est très, très intéressant. Alors j'ai de la chance d'être dans un village dans lequel il y a vraiment une tradition à l'échelle de la région Mirée. On dit que les bouillons tiennent sa somme. C'est-à-dire qu'elles ont des bonnes herbes, donc les bouillons ont un bon goût. Donc les bouillons de volaille, en général, c'est délicieux. Là, je me suis toujours jeté dessus avec beaucoup de plaisir. Ce qui était un peu rude, c'était qu'en marge de parcours rituel, parfois on tuait des bovins. On fait ça à la fin de la nuit, donc vers 4-5 heures. On dépece l'animal et puis après, le boucher commence à le découper. Et on mange tout de suite le foie. Et c'est vrai que ça, alors un peu cuit, hein,
Mais à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, les premières fois, c'était impossible en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'un an après, voilà, après, parce que c'est, tout ça, c'est dans des trucs où on fait la veille, enfin, on est dans des situations de veille, on travaille, on prépare le repas, etc. Et finalement, je m'étais tellement habitué, puis j'avais faim, et donc, un an après, des choses qui me semblaient quand même un peu dures à manger, je les mangeais avec plaisir et avec vraiment appétit en fait. Donc c'est vrai que là, le corps s'habitue à des nouveaux aliments.